Et cette semaine, Marie-Pierre, dans toute la presse chrétienne, il est question d'un voyage historique.
Et oui, Jonathan, celui du pape Léon en Algérie. Un voyage historique placé sous le signe de la paix, de la réconciliation et du pardon. Dans les différentes éditions de nos journaux et magazines, vous lirez le récit de cette visite forte en émotion, de cette visitation, comme le dit Mgr Vesco, évêque d'Alger, à nos confrères de la vie. Une visitation à tout un peuple bien au-delà du petit troupeau de catholiques. En Algérie, confie toujours Mgr Vesco, alors cette fois à Xavier Lenormand du Pèlerin, nous sommes pasteurs de tous et pas seulement de ceux qui vont à la messe ou sont baptisés. Alors, un voyage pour favoriser le dialogue interreligieux ? Certainement, et l'enjeu est de taille. L'Algérie constituant la porte de l'Afrique, un pont entre le Nord et le Sud, entre l'Occident et le monde arabo-musulman, rappelé toujours en février dernier au journal La Croix, le cardinal Jean-Paul Vesco. Des mots que reprenait ce lundi matin notre consœur Fabienne Lemayeux dans son édito de La Croix. Car, au-delà de la visite à la petite communauté catholique, au-delà d'un pèlerinage dans les pas de Saint-Augustin, Léon XIV a surtout voulu rencontrer les Algériens d'aujourd'hui. Et, ajoute notre consœur, il a voulu aussi poser les fondements d'un dialogue entre les mondes chrétiens et musulmans, à la manière sans doute du bienheureux Christian de Chergé, prieur de Tibérine, assassiné il y a 30 ans.
On parle aussi d'un saltimbanque.
D'un circassien, joueur de luth, poète, dompteur de fauves, équilibriste, et qui, tout au long de sa vie, n'a jamais mis personne au-dessus du Christ. J'ai beau avoir lu des livres de philosophes et de sages, c'est lui que je préfère. Il me plaît énormément. Ainsi s'exprime dans les pages de La Vie, sous la plume d'Anne-Laure Filliol, Alexandre Romanès, fondateur du cirque qui porte son nom. Il dit venir d'un peuple, les Tziganes, pour qui Dieu est très important. Un peuple qui adopte toujours la religion du pays où il vit. Et il ajoute, et je le cite, « Je remarque tout de même que lorsque nos communautés se retrouvent dans des pays musulmans, le Christ demeure. » Quel magnifique écho au voyage et au propos du pape Léon en Algérie. Et Alexandre raconte. Il raconte son baptême au collège Saint-Joseph à Dijon, ses premiers pas au sein du cirque familial, ses années de galère dans la rue, puis sa rencontre avec la femme de sa vie, la poétesse Lydie Dattas. Et à lui, qui ne savait ni lire ni écrire, elle ouvre des champs intérieurs et artistiques extraordinaires. Vient alors le temps de l'éblouissement de la littérature, de la poésie. La poésie comme expression de la prière et rencontre avec le tout autre. Oui, oui, je crois sincèrement en la vie après la mort. Et je crois aussi que le paradis ici-bas ne peut se trouver que dans l'amour, dans le lien à l'autre. Nous sommes faits pour cela et le Christ n'arrête pas de nous le dire. Il n'y a rien au-dessus de l'amour comme il n'y a rien au-dessus du Christ.
Et sans transition, on parle aussi d'éducation.
Avec ces communes qui refusent de perdre leur dernier lieu de vie, l'école. Ce mardi d'avril, lorsque notre consœur de la Croix, Clémence Houdaï, arrive dans un petit village de l'Aisne de 352 habitants, le calme règne. Aucun bruit ne s'échappe du bâtiment dont le fronton porte l'inscription « École ». Et pour cause. Depuis 9 ans, plus aucun élève n'est accueilli dans ces locaux. Et pourtant, la commune compte 45 enfants en primaire, tous scolarisés dans des communes voisines, déplore encore Madame la maire. L'école était le dernier lieu de vie du village, ajoute l'édile de 42 ans. Les parents venaient à pied, chercher leurs enfants, discuter à la sortie des classes. Aujourd'hui, nous sommes un village dortoir. Tout cela a éteint le village. Les enfants ne se connaissent plus forcément puisqu'ils ne vont pas tous dans la même école, constate encore Madame la maire. Aujourd'hui, dans l'Aisne, comme ailleurs, municipalités et parents d'élèves se battent pour maintenir une école de proximité. Et quid du lycée pro ? Une voie d'excellence ? Réponse avec Marc, Mathilde et Christopher. Ils sont chaudronniers, horticultrices et maîtres sommeliers. À l'heure du Parcoursup, il y a quelques années, ils ont choisi des filières pro. Pour eux, la voie de l'excellence, la voie de l'épanouissement. Dans les pages de Famille chrétienne, qui rappellent que l'enseignement professionnel fait partie de l'ADN de l'enseignement catholique, ils partagent la passion de leur métier.
Et puis enfin, la Croix Hebdo nous fait entendre des voix glaçantes que l'on croyait de notre temps.
Je suis un informateur professionnel non rémunéré. Rien que durant la première année de l'opération militaire spéciale, j'ai transmis 764 dénonciations à des agences gouvernementales et à diverses organisations. Au pays de Vladimir Poutine, la délation est de retour. Comme au pire temps du stalinisme, une armée silencieuse, sans uniforme ni grade, participe à la surveillance diffuse du pays. Mais qui sont-ils, ces soldats ? Des citoyens ordinaires, encouragés par l'État et que deux décennies de propagande ont convaincus de défendre la stabilité nationale. Les victimes, elles, vivent sous la menace constante. Le monde enseignant, lui, sommé de participer à l'endoctrinement de la jeunesse, vit sous surveillance permanente. On habitue les enfants à la délation, ose confier un enseignant mis à pied. Et le passé rattrape alors le présent. Un historien, spécialiste de la terreur stalinienne, dont le grand-père a été dénoncé, vit à son tour sous la menace d'une lettre anonyme. Sous la plume d'Olivier Thalès, qui depuis Paris a travaillé avec l'aide d'une journaliste russe et qui, au terme d'une longue et patiente enquête, a pu recueillir des paroles rares, vous lirez des témoignages effarants, des témoignages glaçants, des témoignages qui font écho à ceux d'une paroissienne russe qui vit en Sibérie. Ce vendredi matin, dans la Croix, dans une lettre ouverte, bouleversante, adressée à tous ses frères et sœurs en Christ, elle livre au monde un témoignage inédit. Je ne veux pas disparaître sans laisser de traces. Un texte à la croisée du document historique, du testament spirituel et de l'acte de résistance. À lire et à faire lire.